Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. La traque, film de Yoon Sung-yoon avec Lee Ji-hoon, Han Jae-young, Choi Wook-sik et Park Jun-ming. Nam, une histoire de braquage donc.
Oui, trois jeunes coréens qui décident de braquer un casino illégal. Ils réussissent, et sauf que le casino, ils emploient quelqu'un pour les traquer et se venger.
Bon, voilà. Donc c'est coréen, il y a un peu de thriller dedans, du coup il pleut et les rues sont moites.
En fait c'est plus que ça, c'est-à-dire que dans le film il te construit tout un univers en mode effondrement économique de la Corée, c'est pour ça que les mafias ils font ce qu'ils veulent et les rues sont sales, il y a pas beaucoup de gens dans les rues et t'entends des coups de feu. En fait c'est juste pour pouvoir justifier le fait qu'en Corée les rues soient dégueulasses, parce que sinon c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, mais après outre ça... j'ai trouvé le film très sage pour un thriller coréen. On nous a attendu à beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux, beaucoup plus violent. Là déjà, il reste que au flingue, ce qui est décevant parce que non mais le corps
là,
à corps.
Il veut de la surenchère
mais
de
oui,
violence.
Moi je veux que ça tape, tu
il
vois.
Un marteau, un truc.
Non même pas. Genre dans J'ai rencontré le diable, t'as une scène incroyable.
Non mais
oui.
Tout de suite ici,
okay,
hein, on est pire.
Le pinacle quoi.
Donc ok bon, pas J'ai rencontré le diable. Mais là du coup, il y a que des flingues et les flingues c'est sympa 5 minutes, mais au bout d'un moment c'est chiant, tu vois. Voilà, et le mec qui traque très rapidement, il devient une espèce de forme fantomatique, style slasher. C'est-à-dire qu'il passe son temps à marcher, et tu sais pas comment, mais il se téléporte, c'est un slasher. Voilà.
Il est toujours dans l'ombre aussi. Hein.
Oui, et il fume des clopes, voilà. On s'en fout, mais il fume des clopes.
Ténébreux comme personnage. François.
Je suis d'accord avec ton constat, c'est qu'en fait, le film est un peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il essaie d'un côté d'être une espèce de dystopie. Presque un film pour ados à la Hunger Games, on est presque dans ces délires-là. Et de l'autre côté, il va être une série B coréenne, ultra poseuse, ultra nerveuse, comme on l'a vu. Donc, quel que soit le bout par lequel on veut le prendre, ça marche pas en fait. Parce que du côté dystopie, en fait, l'univers est pas du tout détaillé, les relations entre les personnages sont complètement ébauchées. Et du côté action, comme tu disais, c'est pas tellement que ce soit que des flingues, c'est juste que la mise en scène des scènes d'action est faible, quoi. C'est-à-dire quand ils font leur braquage dans le casino, il y a cette fameuse scène où le gars veut mettre sa main pour appuyer sur le bouton pour appeler la sécurité et l'autre lui met un coup de crosse. On a vu ça un milliard de fois, c'est filmé de la même manière à chaque fois. Et après, bon, l'ambiance, si une lumière rouge dans une rue vide et sale, c'est une ambiance, ok, il y a une petite ambiance.
On dirait un argument de Maxime, ce genre de phrase. Deux questions. Première question, pour un peu tout le monde qui l'a vu, est-ce que la Corée aurait pas trouvé le mélange de deux genres qui marche pas? Parce qu'à chaque fois on dit « Ah, c'est trop bien, il mélange deux genres », et là j'ai l'impression que c'est pareil, c'est la même méthode, mais là ça fonctionne pas.
On peut pas être excellent tout le temps. Hein.
On peut pas être excellent tout le temps, Lila.
Pour moi, c'est pas la notion de mélange qui pose problème, parce que moi, justement, j'aime bien ce petit vernis qui a un côté dystopique, mais qui va pas non plus l'exploiter dans le sens où ça détourne pas du motif du film. Ça donne juste un cadre un peu sympa qui, en plus, enfin, toute la question d'effondrement économique, quand nous on regarde ça en plein confinement, quand on est en train de t'expliquer que la bourse est en train de s'effondrer partout, tu te dis, quand même.
C'est pas une dystopie, c'est la réalité.
Voilà, c'est ça. mais après, pour moi, c'est vraiment le côté. Film thriller braquage en lui-même qui marche pas tant que ça parce que c'est ce que dit François, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'on l'a vu tellement de fois, on est tellement dans le moule. J'ai vu le film il y a un mois, je me rappelle de rien. Pas sur le moment, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est juste qu'il y a rien qui fait que je me rappelle de ce film par rapport à un autre, parce qu'on suit juste, que ce soit dans le cinéma ou dans la mise en scène, on suit juste des choses qu'on a vues et revues.
François.
Il y a peut-être à la fin quelque chose, enfin en tout cas dans l'intention du scénario, c'est de montrer la traque comme un fait physique, un fait qui impacte les personnages, mais qui aussi, psychologiquement, ils se sentent toujours poursuivis, toujours traqués. Et même à la fin, finalement, ils sont toujours poursuivis, ils sont toujours traqués, même dans leur cœur, quoi. Ça, c'est un peu intéressant, mais à mon avis, c'est pas assez exploité.
Quentin, qui n'a pas vu le film, a une question pour vous.
Ah si, je l'ai vu, moi.
Ah si, tu as vu.
J'ai absolument vu le film.
Je refais là, le lancement.
Non, c'est drôle.
C'est chiant. Quentin.
Alors moi, je vais passer outre... Il y a une pelletée d'incohérences dans ce film qui est assez incroyable. Notamment que... en fait, je vais reprendre une expression de Nam qui, je trouve, marche très bien. Tous les mecs dans ce film, c'est l'équipe B. Tous les mecs dans ce film, c'est l'équipe B. Ils sont tous nuls.
Oui, c'est-à-dire
c'est qu'il
n'y
a aucun rapport de force. C'est pas... On est les braqueurs, on est un peu nuls parce qu'on se prend pour des gangsters. D'ailleurs, parenthèse, la mise en scène des gangsters... C'est les gangsters des clips de rap, c'est pas des vrais gangsters. Attendez les gars, je vais expliquer le plan, donc j'allume une clope. On est dans ce genre de choses. Et il y a le mec un petit peu timide qui a jamais tenu une arme, et les autres ils ont parfaitement tenu une arme, et l'autre il est un peu beau gosse, il fait un peu des blagues. Enfin bref, voilà, c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois, et en fait on se dit, ah le tueur, oh là là, le tueur chez lui il a un cadre avec des oreilles dedans. Je sais pas si vous avez vu ce truc.
Oui, c'est vrai.
Il avait un cadre avec des oreilles dedans, et en fait on se dit, ok, donc le mec c'est une brute, il est trop fort. Bah en fait pas du tout. Enfin, il se fait avoir à n'importe quel truc, il tire très mal. Enfin, ça ne marche jamais. Ce qui fait que du coup il y a aucun rapport de force, et on a juste l'impression de voir des gros nuls essayer de se tuer les uns les autres.
Le tueur a tellement pas de personnalité que pour essayer de le rendre cool, ils lui ont mis un manteau qui tombe jusqu'au genou.
Mais oui, non mais on en est là quoi. Et en fait, le film, ça marche bien sur moi. Moi je me suis dit, il y a une scène qui m'a quand même rendu un peu fou. C'est-à-dire que le tueur va chez le marchand d'armes. Et le marchand d'armes, il a 2-3 sbires. Hein. Et il arrive.
Ils sont que deux, ils jouent au billard.
Ils sont deux, ils jouent au billard. Bon. Mais les mecs, ils ont quand même un arsenal militaire à côté d'eux. Bon. Le gars, il arrive, il fait son petit numéro, il le menace, il dit ouais, machin, je vais reposer ma question une deuxième fois, etc. Donc il menace ouvertement le trafiquant d'armes. Le trafiquant d'armes lui dit casse-toi en fait, tu me menaces pas en fait. Le tueur revient 10 minutes après. Donc c'est-à-dire que les gars savent très bien qu'il y a un gars qui a menacé le patron, d'accord ? Le tueur vient 10 minutes après, il rentre tranquillement, les gars le regardent rentrer. Genre tout va bien, et là poum, ils se font tuer en 2 secondes. Et tu dis, mais vous êtes con quoi,
Tout le monde est con.
Tout le monde est nul, ils sont nuls. Et en fait tu te dis, mais vous êtes des branques, c'est pas possible. Genre, les gars qui vont faire le braquage, alors je suis désolé, mais les gars qui vont faire le braquage, qui prennent en photo les caméras de surveillance, ils prennent en photo ouvertement, ils font des allers-retours en bagnole pour compter le nombre de minutes, sauf qu'il y a des caméras, on les voit. Et après ils disent, ouais non, il faut voler les disques durs, les mecs ont des cagoules, pourquoi tu veux voler les disques durs? C'est que des trucs comme ça, et je me dis, mais en fait c'est que l'équipe B tout le temps. Quoi.
Mais non, justement, ils veulent voler les disques durs parce qu'ils savent qu'ils sont sur les vidéos de quand ils ont pris les photos.
Mais c'est stupide de base.
Mais oui, c'est stupide de base, on est d'accord. Mais
et quand ils sont là en train de dire, ouais, on a l'argent, on a les flingues, tout va bien, on est exactement à cet endroit ici, et ils font ça au téléphone portable.
Oui, alors ça,
les gars, il y a un moment, voilà. Donc en fait, moi je me suis dit, vraiment, en fait, c'était l'esthétique des gangsters de clips de rap, dans le sens où dans un clip de rap, ça marche très bien, parce que ça dure 4 minutes, et qu'en général, c'est des plans très courts, et que du coup le côté pimp et le côté on se parle au téléphone, etc., le scénario en fait d'un clip de rap, globalement on s'en fout, sauf que là c'est un film qui dure 2 heures. Donc ça ne marche pas bien.
J'avais dit 2 questions, j'ai posé ma première en début d'émission. Deuxième, est-ce que après avoir encensé les films coréens parce que c'est trop bien, etc., parce qu'on avait surtout les meilleurs films coréens, on commence pas à voir le reste des films coréens qui est logiquement, je dis pas que le cinéma coréen c'est moins bien ou chose, est-ce que c'est juste que par effet de nombre, vu qu'on a plus de cinéma coréen, on a forcément des choses moins bien, et on se rend compte que c'est plus moyen qu'on pense, évidemment, parce que tout est plus moyen quand on lit sur tout. Lila.
Alors, sans forcément le rattacher à ce film, moi c'est un discours que je tiens depuis assez longtemps, et quand tout le monde me dit « Non mais toi Lila, tu surclasses toujours le cinéma coréen, t'adores tout ça », je fais « Oui, mais parce que logiquement on a un filtre qui fait que je vais pas voir la petite comédie de merde ». Écoute, moi cela dit, je suis quand même contente de voir des films que je vais moins s'insenser, mais qui me permettent quand même d'avoir une vision plus large du
cinéma. Les gens sont moins relous avec toi grâce à la
traite. Ouais, voilà.
Super.
Mais après je pense aussi que pour le cinéma coréen, on a eu un effet de rattrapage, parce que il y a beaucoup de gens, le premier film coréen qu'ils ont vu c'était All Boy, qui était sorti en 2006-2007 2004, milieu des années 2000. On a eu un effet de rattrapage où tous les autres films coréens genre Memories of Murder et compagnie, ils sont arrivés, les gens ont plus commencé à les voir après. Du coup, t'as ce côté-là où bah, t'as plein de films qui arrivent d'un coup, et bah maintenant,
puis, sachant que
les films continuent à se faire, et bah des fois, c'est pas génial.
Old Boy, Memories of Murder, avant que ça soit, on va dire, pas dans le grand public, mais au moins dans un public étendu, il a fallu encore 10-12 ans derrière quand même.
Oui,
ça s'est pas fait tout de suite. Justin.
Oui, alors j'ai pas vu le film, mais c'était pour revenir sur le cinéma coréen, j'ai quand même l'impression qu'il y a qualité, parce qu'il y a un festival qui se déroule chaque mois d'octobre à Paris. Sur le cinéma coréen.
Oui.
Bah, on a l'occasion d'en voir quand même un paquet en quelques jours. Il y a quand même une qualité, même notamment pour les gros films, les blockbusters, il y a quand même une qualité moyenne, un savoir-faire qui est quand même au-dessus de la moyenne, moi, je trouve. Il y a un standard.
C'est une vraie question que je posais.
C'est pas forcément des chefs-d'œuvre à chaque fois, mais il y a un standard qualitatif dans ce genre de cinéma d'action, de polar, qui tient quand même. C'est moyenne haute, quand même, malgré tout, ils savent y faire.
Mais il y a un savoir-faire, quoi.
Ah, très bien.
Ouais, puis l'autre raison, c'est qu'en fait Netflix produit aussi des films dans chaque pays, et nous, si on a regardé la traque, c'est parce qu'effectivement on a cet intérêt pour le cinéma coréen. On n'est pas allé voir le film bangladais qui est sorti, alors que je suis sûr qu'il y en a un qui est sorti pendant le confinement. Et je me pose la question, est-ce que les Coréens, ils voient les films originaux français de Netflix, qu'est-ce qu'ils pensent de notre cinéma? Voilà.
Est-ce qu'ils ont regardé Marianne?
Oh là, je suis sûr que les étrangers ont bien plus aimé Marianne que les Français,
je pense aussi,
par biais de langage notamment.
Déjà, ça parlera pas français.
Moi, juste pour terminer sur la traque, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. J'ai l'impression de voir des situations que j'ai déjà vues dans des films coréens, et que du coup, en fait, j'ai l'impression de voir ce qui s'est passé avec les films d'action américains au début des années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, ils se ressemblaient tous vraiment de plus en plus. Jusqu'au moment où, enfin plutôt fin des années 90, jusqu'au moment où Matrix arrive et redynamite un peu le tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le cinéma coréen, en tout cas policier, thriller, ce genre de choses, il arrive à un terme. Et que je pense que la traque.
C'est un beau cycle déjà.
C'est déjà.
Parce que 15 ans.
C'est assez incroyable.
Peut-être même plus. Hein.
Mais je pense qu'on en commence à en voir le bout. Et que du coup, ça amène peut-être un futur.
Cool.
Plus
on va voir de nouvelles choses. C'est très bien. Oui. Parfait. Mmh. Merci beaucoup pour la track qui nous aura amené à un beau débat qui n'était pas forcément attendu, mais c'est aussi ce qu'on aime le plus. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, SoundCloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.